Seigneur, nous aimons quand tu nous apparaisses. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour chaque membre de ton corps. Tu es si précieux dans tous les saints. Merci, nous avons le droit de te voir dans tous les frères et sœurs. Nous nous cachons en toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons te donner toute la place afin que tu puisses mener à bien ton œuvre sur terre. Tu es le victorieux. Seigneur Jésus, tu es le victorieux. Seigneur Jésus, tu es le victorieux. Nous sommes des évangélistes. C'est pourquoi nous devons toujours à nouveau annoncer la victoire du Seigneur tous les jours, c'est notre devoir. C'est merveilleux, le Seigneur nous donne chaque jour un nouveau jour. Hier c'était hier, et aujourd'hui c'est aujourd'hui, et maintenant c'est maintenant, et nous pouvons annoncer la victoire du Seigneur. Nous avons un merveilleux chemin. Je voudrais rapidement, revenir au dessin de la première réunion. Je voudrais montrer les trois cercles, un chemin vers le haut et en haut un grand cercle. Et ce grand cercle à la fin représente ce qui va être produit à la fin à partir de tous ces petits cercles. Et je voudrais aussi répéter que nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, il y a la grâce. Un jour, elle se terminera. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre la grâce. Et cette grâce doit servir à que nous atteignions le but. Et ce but n'est pas pour un petit groupe d'élite, mais qu'ensemble nous puissions atteindre le but. Et ceci est valable pour chaque enfant de Dieu. Et Dieu voudrait, en tant que Père, nous amener au but. Comme nous, Père, nous voudrions amener nos enfants au but, qu'ils deviennent adultes, qu'ils deviennent mûrs, et qu'ils grandissent dans la vie, qu'ils soient indépendants, et qu'ils puissent exprimer quelque chose. Et nous sommes destinés à cela. Et cela va se terminer dans une merveilleuse récompense. Et nous allons un jour régner avec lui. Il a marqué la récompense. Et un jour, nous allons briller avec lui dans cette ville. Cette ville n'a plus besoin de lampes, de lumière. Nous n'aurons même plus besoin du soleil. Ces petites choses, on n'aura plus besoin comme le soleil. Car Dieu va illuminer cette ville. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est si important que dans notre quotidien, dans ce combat, là où nous nous trouvons, que nous levions la tête toujours à nouveau et que nous regardions, mais qu'en est-il vraiment? Oui, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses qui nous découragent, il y a des choses difficiles, il y a aussi de la joie, mais nous devons toujours nous poser la question, mais pourquoi nous vivons? Quel est le but? Et moi, j'apprécie vraiment ce fait d'être dans sa maison et puis d'être sorti de nouveau de ces petites choses qui m'occupent tellement. Nous avons un but merveilleux. Le Seigneur est au milieu de nous. Et nous marchons ensemble sur ce chemin. Si vous regardez comme le Seigneur a vécu, il n'y avait personne au temps de Jésus qui exprimait Dieu. Le peuple avait ses occupations, ils avaient tous leurs processus religieux, leurs sacrifices, tout marchait de manière bien, tu pouvais exhorter, juger les gens d'après la loi. Mais Dieu disait, ce Dieu m'honore de mes lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et Dieu cherche un peuple qui a un cœur pour lui, qui écoute quand il parle, qui ne cherche pas ce qui est juste. Nous ne pourrons pas nous juger. Laisse ça. Dieu connaît nos cœurs, il nous juge et il est pour nous. Et quand le Seigneur est venu, dans Marc 1, verset 14, Marc 1, verset 14, après que Jésus était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » J'ai vraiment apprécié cela. Le Seigneur lui-même était ce royaume de Dieu. Là où il était, il y avait ce royaume de Dieu. Il a aussi dit, voici le royaume de Dieu est venu près de s'est approché de vous. La gloire de Dieu est venue sur cette terre. Dieu lui-même est venu. Dieu est devenu chair. Et Philippe, un jour, lui a demandé à Jésus, « Écoute, montre-nous une fois le Père. » Ouais, une fois. Et Jésus lui a répondu, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et vous ne me connaissez pas. » Lui seul exprimait le Père. Mais il dit, il leur a aussi dit, « Vous verrez des choses plus grandes, mais moi je vais vers le Père. » Qui exprime, qui témoigne de ce royaume aujourd'hui sur terre? Qui doit dire aux gens, il y a une bonne espérance, il y a une alternative à ce que le monde offre, et c'est la seule alternative. Qui le fait? C'est le Seigneur en nous, c'est son Église. Et son Église amène ce royaume. C'est par vous, frères et sœurs. Nous sommes un corps. J'apprécie toujours à nouveau cette image. Nous sommes un corps. Naturellement, nous sommes dans des localités différentes, sur des continents différents. Et c'est encore dans cet âge comme cela, mais ça ne durera pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs corps, des sections des corps? Nous sommes un corps. Nous sommes tous dans le lieu où Dieu nous a placés. Nous exprimons ce Christ. Et par toi, par nous, il désire briller et apparaître. C'est un tel privilège. C'est aussi un véritable combat. Et c'est ce que nous avons vu aussi hier soir. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Tu peux parler de beaucoup de choses avec eux, ça va les enthousiasmer, mais quand tu leur parles de ce que tu fais réellement là dans l'église, ils vont te dire peut-être de manière gentille, oui c'est bien, mais ils vont vite changer de sujet. Et peut-être d'autres veulent rien savoir quand tu dis que le Seigneur était si précieux pour toi. Et ce n'est parfois pas si simple. Parfois pour nous, jeunes gens, et je m'inclus encore pour les plus jeunes, quand chacun a son programme et quand chacun parle de ce qu'il a fait à Noël, ce qu'il a reçu comme cadeau, et que tu dis toi, je fête pas Noël. Je fête pas Noël, en fait. C'est encore manière diplomatique. Parfois, nous disons aussi, Noël, ça vaut rien, j'ai rien à faire avec Noël. Et là, nous expérimentons de la résistance. Il y en a peu, je ne sais pas combien vous êtes dans votre environnement, dans votre école, dans votre parenté qui vivait cela, et ça fait mal d'être au bord. C'est pas ce que cherche mon vieil homme, et il préfère faire comme les autres, et se réjouir avec les autres, être considéré, et c'est totalement différent quand nous annonçons l'Évangile. Mais est-ce qu'il y a un encouragement dans Philippiens 2, verset 1? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, est-ce qu'il y a cela? Où est-ce qu'il y a cela? Dans la vie de l'Église. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Il y a cela dans l'Église. L'Église est le lieu qui nous approvisionne, qui nous satisfait. Parfois, je demande à mon fils, qu'est-ce qui te rend heureux? Parfois, je lui pose spontanément des questions comme ça que je lui pose. Et quand tu lui demandes, quel est ton trésor? Et quand on me demande à moi, je peux dire que c'est la vie de l'Église qui est la plus précieuse. Et je ne sais pas où je peux vraiment avoir ce sentiment de bonheur en dehors de l'Église. Et si tu ne le ressens pas, alors demande au Seigneur de te remplir. Demande-lui de te remplir cette richesse qu'il te satisfasse pleinement. Si nous n'avons pas ce sentiment, et nous ne pouvons pas nous forcer. Je ne peux pas me forcer à être heureux parce qu'on m'a enseigné. Je ne peux pas me forcer à prêcher l'Évangile. Je ne prêche pas l'Évangile parce qu'on doit prêcher l'Évangile. Seigneur, exprime-toi au travers de moi. Le Seigneur est l'Esprit en nous aujourd'hui. Il dit dans Jean 7, dans Jean 1, il parle de ceux qui l'ont reçu, et dans Jean 7, il est dit au verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore. L'Esprit en nous est cette source. Et si c'est difficile, si c'est triste, si t'es frustré, si c'est sec, c'est l'Esprit en nous qui est cette source. C'est la clé numéro un. Viens toujours au Seigneur. En premier lieu, Seigneur, je suis très frustré. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je ne le comprends pas. Mais viens au Seigneur. Et le Seigneur voudrait nous donner. Et c'est notre témoignage. Dieu est vivant et nous l'expérimentons. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Et si les gens viennent, ils doivent témoigner aussi que Dieu est au milieu de nous, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 14, 25. Mais cette joie, c'est ce que nous expérimentons dans la vie de l'Église, et c'est pour ça que Paul l'introduit aussi là dans l'Épître aux Philippiens, après avoir parlé de ce combat de l'Évangile. Soudainement, il parle de cette consolation, de la vie de l'Église. La vie de l'Église est si précieuse pour le Seigneur. La vie de l'Église a besoin, on ne peut pas le séparer. Il en va à la fin de sa maison, de son corps qui croit. Et ça nécessite aussi que nous ayons aussi une conduite prudente dans l'Église. Car la vie de l'Église peut être si puissante d'un côté, elle peut lier l'ennemi, elle peut chasser l'ennemi, elle brille comme cette ville sur la montagne, et de l'autre côté, elle est si sensible et fragile. C'est pour ça que nous avons besoin d'être très attentifs et que nous apprécions combien l'Église est précieuse. Et quand nous lisons dans Éphésiens, il est dit qu'il a tant aimé l'Église, qu'il est mort pour l'Église. Il est mort naturellement pour toi, pour tes péchés, afin que tu aies un chemin personnellement pour venir à Dieu et être né de nouveau. Mais Dieu avait en vue encore bien plus. Il cherchait cette contrepartie, ce vis-à-vis, et c'est pour ça que l'Église est si précieuse pour lui. Et quand tu dis, Seigneur Jésus, je t'aime, alors tu dois aussi dire, j'aime ton Église. Et ça doit être théorique. C'est encore théorique, mais qu'est-ce que c'est l'Église encore? C'est vous. Nous sommes l'Église. Si j'aime l'Église, Si je dis j'aime le Seigneur, si j'aime l'Église, alors l'étape suivante, c'est que je vous aime et que mon cœur brûle pour vous. Mais je n'ai pas cet amour. C'est ce que je vais remarquer soudainement. Oui, avec quelques frères et sœurs déjà. Oui. Certains, oui, qui ont les mêmes mêmes activités que je trouve bien. Nous devons discerner. Le Seigneur nous apprend à enseigner ce qui vient de cette source de l'esprit, de cette vie, et ce qui vient de mon âme, de mon vieux Michaël, celui qu'il aime, ce qu'il aime, ce qu'il a influencé de par sa culture, son éducation, mais cela ne compte pas dans l'Église. C'est même du poison pour la vie d'Église. Ça peut être un fardeau pour l'Église, un dommage. Mais le Seigneur a sa vie merveilleuse et tu le trouves partout. Lis la parole et tu vas encore plus connaître ce Seigneur qui est en toi. Et quand quelque chose t'interpelle dans la parole, c'est lui qui t'interpelle. Il est vivant et tu peux alors le connaître. Nous connaissons ce passage dans Marc 10. Où il rencontre ce jeune homme, verset 17, Marc 10, verset 17. Il lui demande, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit, lui donne les commandements, et le jeune homme dit, « Mais j'ai tout fait ça !» Et moi, je l'aurais repris. Il est si présomptueux, tu es si jeune et tu dis que tu accomplis toute la loi. Et combien je suis dur parfois avec les frères et sœurs. Mais écoutez, dans l'Église, on fait les choses comme ça et lui, il le fait totalement différemment. Comment il réagit, lui, quand il voit les manques dans le frère, dans la sœur? Que dit-il? Et qu'est-ce qu'il est dit? Verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima, et ce n'est pas moi qui a une telle attitude, mais louez le Seigneur, nous avons cette vie en nous. Nous avons cette vie qui vient du Seigneur, qui coule en nous. Le Seigneur voudrait qu'on exprime cette vie. Il veut nous rassembler et nous revenons dans Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et puis verset 5, « Ayez en vous les sentiments ou cette pensée en grec qui était en Jésus-Christ. » Quand nous considérons la pensée de Jésus, la pensée de cette... Elle est totalement différente de la nôtre, de la pensée de cet âge qui est centrée sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui me donne plus? Qu'est-ce qui me permet de m'épanouir? Et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est doux. Il est doux et humble de cœur. Il est à la droite du trône de Dieu. Il a quitté la gloire de Dieu. Il s'est aussi laissé abaisser. On s'est moqué de lui, on lui a craché sur le visage. Il a été considéré comme rien et il n'a pas ouvert la bouche. Un jour, un disciple lui a dit, « Mais il faut que quelque chose se passe. » Et le Seigneur a répondu, « Tu crois-tu pas, si j'invoquais mon Père, je pourrais faire venir, il enverrait 12 légions d'anges. » Et puis, un autre a dit, « Mais maintenant, Seigneur, fais descendre le feu du ciel. » Et le Seigneur n'a pas réagi. Il acceptait les choses, il était prêt à se donner. Et il s'est dépouillé au verset 6. Il est devenu semblable aux hommes, au verset 7. Il faut cette nature pour la vie de l'Église, afin que l'Église soit forte pour porter le témoignage. Pourquoi Paul ajoute ce chapitre? Parce qu'il n'en va pas durant cette conférence de savoir comment on peut amener l'Évangile de manière optimale, efficiente. Non, il veut nous montrer combien l'Église est précieuse, et quand l'Église est saine, en bonne santé, il y aura un résultat qui sera la prédication de l'Évangile. Car la vie produira, l'Esprit en nous va nous pousser à la vie, et le Seigneur frappera notre cœur, et que nous serons prêts à dire, Seigneur, je suis prêt, me voici. Fortifie-moi. Le Seigneur voudrait que l'Église soit en bonne santé et avance. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une telle attitude. Et comme il est dit aussi encore une fois au verset 2, ayant un même amour, une même âme, une même pensée, il en va maintenant aussi de moi. À quoi je pense? Nous sommes... Si nous réalisons nos pensées, mais, oh Seigneur, il faut vraiment que nous nous tournons. Quand nous voyons un frère, une sœur, Seigneur, tout ce qui est de moi, je laisse de côté. J'ai été mis à mort avec toi. Et si j'ai un tel cœur pour les frères et sœurs, frères et sœurs, je n'ai plus d'autres que vous. Ceux qui étaient mes amis, qui m'appelaient amis, où sont-ils? Ils sont partis quand je leur ai annoncé l'Évangile, quand je leur ai dit qui est important pour moi. Soudainement, je n'étais plus si important pour eux. Bien que certains m'aient appelé comme leur meilleur ami pour toute la vie, ils ont changé. Où sont les véritables amis? Si quelqu'un est important, si tu as un ami ou une amie qui t'est important, alors dis-lui que Jésus l'aime, que Jésus veut la sauver et qu'ils sont morts dans le péché. Que Jésus les aime, qu'il a un chemin pour eux. Dis-leur, si tu invoques le nom du Seigneur et que tu crois de ton cœur, c'est la meilleure des choses que je peux te donner. Reçois-le. Fais-le. Deux points. Il sera sauvé ou elle sera sauvée. Ou très rapidement, ce sera révélé si c'est un véritable ami ou pas. Ou malheureusement, à cause de ce monde et de cette influence du monde, et ce monde peut aussi nous influencer, et si tu laisses ce monde t'influencer, tu vas être changé. Et attention, fais attention. La meilleure des protections, c'est de prendre position et de dire que tu es chrétien. Tu seras plus si souvent invité, tu n'écouteras plus, tu n'auras plus besoin d'entendre tellement de choses, car ils sauront même qu'ils ne doivent pas dire certaines choses. Peut-être qu'ils vont même s'excuser, ils s'excuseront d'avoir juré, parce qu'ils savent que tu es chrétien, parce que tu as pris position avec courage. Si tu as un ami, partage le Seigneur. Si tu as vraiment un ami, tu lui partageras le Seigneur. Imagine-toi un ami qui passe tant des années à côté de toi et qui n'écoute pas, qui n'entend pas parler du Seigneur à cause de ton ami et à cause de ta protection. Parle-lui du Seigneur. Et le Seigneur ajoute tellement plus. J'ai tellement de frères et sœurs, des frères et sœurs si précieux. Le Seigneur a tellement ajouté. Je dois tellement loué le Seigneur, ça vaut vraiment la peine. Et c'est pourquoi nous devons avoir aussi un tel cœur pour les frères et sœurs. Et le Seigneur voudrait nous lier dans l'âme. Que veut dire Paul dans ce passage? Quand on me demande comment ça va, oui, ça va bien, tout sert à la défense de l'Évangile. Qu'est-ce que je dis quand ça ne va pas? Quand j'aurais vraiment besoin de quelqu'un qui m'écoute parce que je vais vraiment mal. Comment je me conduis dans cette situation? Et frères et sœurs, nous voudrions pas être bizarres. Nous avons besoin les uns des autres. Et en même temps, nous devons apprendre à parler et apprendre ce que nous devons dire à cause de l'Église, de l'avancement de l'Église. Si nous sommes liés dans l'âme, alors, mais de manière naturelle, nous aurons rapidement des groupes. Hein, ce frère-là, il n'est pas de notre groupe. Oh, ouais, on ne peut pas parler avec lui. Mais nous deux, on peut vraiment on a expérimenté beaucoup de choses. Hein, c'était super ce mariage où nous étions. Mais avec ce frère, ça ne va pas si bien. Et là, nous avons ce lien de l'âme qui exclut d'autres, qui met des frontières. Nous nous sommes laissés baptiser pour laisser cette vieille vie de côté. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sentiments, ça ne veut pas dire que je n'ai plus besoin d'être avec des frères et sœurs, d'avoir des besoins de communion, de partager. Mais avec qui je partage en premier? Avec notre Seigneur. Je commence toujours en le partageant au Seigneur. Et peut-être après, tu as besoin de parler avec quelqu'un d'une situation de laquelle tu parlerais pas avec d'autres. Mais ça doit être dans le Seigneur. Mais reste dans la dépendance du Seigneur. Et tu as aussi le droit de mettre ta main sur l'épaule d'un frère et lui dire, le Seigneur va y arriver. Tu sais, j'étais aussi découragé comme toi il y a 2 semaines, mais le Seigneur va y arriver. Je ne veux pas être bizarre et me détourner quand un frère me demande comme je vais. Si je ne vais pas bien, mais je le dis, le Seigneur, il est simple. Nous devons apprendre à avoir de la communion. Sinon, nous sommes toujours en danger de glisser dans quelque chose d'ancien, de vieux. À partir du moment où cette simplicité dans la communion avec le Seigneur disparaît, et où nous ne venons pas nouvellement au Seigneur, Seigneur, je veux venir à toi. Je veux être prêt que tu me parles, que tu me corriges, même après tant d'années. Le Seigneur peut te dire, hier c'était ok, mais aujourd'hui c'est différent. Et si tu restes dans cette communion, mais alors là, nous parlons du chemin de la vie, il va nous conduire ensemble de l'avant. Mais si tu te détournes, tu dis, j'ai compris, et que intérieurement tu as des critiques envers les frères et sœurs, c'est toujours un indicateur de ton état spirituel. Et quand il y a des critiques, faut toujours avoir cette alarme à plein gaz. Ouais, il y a urgence là. Quand il y a des critiques, sois prudent. Là, il y a une alarme. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas des choses qui ne vont pas, mais nous avons besoin du Seigneur, sinon ça sera difficile. Et le Seigneur doit nous garder. Louez le Seigneur.
Amen.
Amen.
Andreas,
es-tu prêt? Nous avons pensé que nous allons partager le message parce que nous sommes plusieurs, beaucoup de membres du corps.